Je suis au musée du Quai Branly à Paris. Je cherche le Bénin. J'y pars demain. Je veux voir les œuvres que nous allons restituer. Je veux voir les œuvres que je ne verrai pas là-bas.
Du Quai Branly au Bénin, la restitution du patrimoine africain. Un documentaire de Sophie Pillot, mixé par Agnès Maton.
Présentées selon un parcours géographique, les collections d'Afrique du musée du Quai Branly engagent à découvrir l'art du continent jusqu'aux régions australes et orientales.
Rendez-nous ce qui est à nous et qui nous nomme. Nos enfants ont besoin de voir ça. Ils ont besoin de réécrire leur histoire, l'histoire de leurs parents, avec des objets qui sont des témoins de ces temps-là.
Ça y est, je suis au bon endroit. Royaume du Dahomey. Le 17 novembre 1892, les troupes françaises entrent à Abomey. La veille, le roi Béhanzin a mis le feu au palais avant de prendre la fuite. Les militaires rapportent à Paris des objets du palais au titre de butin de guerre.
Mesdames et messieurs, bienvenue à Cotonou. Il est actuellement 8h, heure locale. Nous sommes 25 minutes en avance sur l'horaire. La température extérieure est de 29 degrés.
La demande de restitution de ce butin date d'une dizaine d'années. Ousmane Aledji, auteur et metteur en scène, chargé de mission culture, tourisme, artisanat auprès de la présidence de la République du Bénin, se souvient de leur première demande.
C'est vrai que ça a très mal commencé avec le gouvernement de M. Hollande. Hollande, il avait comme ministre des Affaires étrangères M. Hérault Jean-Marc, qui a répondu à la demande béninoise de façon, on va dire, maladroite. Je mets ça dans plusieurs guillemets, parce qu'il nous disait que les objets étaient français, parce que la loi française les avait classés et qu'ils sont devenus propriété française, etc. Donc frappés d'irréversibilité, etc., etc. Donc le nom n'était pas seulement catégorique, mais arrogant. Mais violent pour nous, en tout cas, de voir ce type de réponse. Mais subtilement, et avec l'avènement du président Macron, on a continué les échanges. Et je félicite les deux chefs d'État d'avoir su trouver des modes de fonctionnement et d'échange. Et au final, on a eu ça.
Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens.
Discours d'Emmanuel Macron, le 28 novembre 2017, à Ouagadougou.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Il nous a fait la réponse gentiment depuis le Burkina Faso, mais nous, on a bien compris que c'est à nous qu'il parlait d'abord, aux Béninois et à toute la jeunesse africaine. Et heureusement, j'ai dit encore, il y a une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui gouvernent nos États et qui comprennent les enjeux et qui font évoluer aussi les pensées et les rapports qu'il y a entre les peuples. C'est tant mieux. Nous, on est dans une démarche, j'allais dire, de coopération et de restauration d'un patrimoine qui a été, d'une certaine façon, spolié, vidé, sorti du pays de façon très peu commode, très peu morale, on va dire. Quand c'est des prises de guerre, c'est-à-dire que derrière ça, on voit le nombre de morts potentiels qu'il y a eu avant que cela ne se passe. Donc il faut rendre ça. Ça ne rend pas hommage à ce que j'appelais tantôt à la grandeur française. ça ne célèbre pas la grandeur française de vous laisser ça non plus. En fait, je ne dis pas qu'on est en train de vous rendre service, mais c'est presque ça. C'est presque cela. On a besoin de ça comme pour nourrir une politique publique de développement, mais on a besoin de ça pour une façon nous sentir dans notre histoire et de léguer quelque chose à la génération future.
Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.
Annexe à l'article 1er, 16 juillet 2020, liste des biens concernés par la restitution. Statue anthropomorphe du roi Gezo. Statue anthropomorphe du roi Glélé. Statue anthropomorphe du roi Béhanzin. Porte du palais royal d'Abomey. Siège royal. Récade. Calebasse royale grattée et gravée d'Abomey, prise de guerre. Trône du roi Glélé. Fuseau. Métier à tisser. Pantalon de soldat. Siège tripode sur lequel le roi posait ses pieds.
Les trophées de guerre, on ne les rend pas. Tout ce que Napoléon Ier a pris à l'Égypte, vous allez pouvoir rendre ça à Paris, ne sera plus Paris. Oh, moi je veux que Paris reste Paris.
On me parle de restitution, ça veut dire que dans 20 ans, on n'aura plus d'histoire.
En attendant que, de regarder ces objets nous-mêmes comme des objets culturels, il y a les Américains, pas les Français curieusement, il y a les Américains qui les regardent comme des objets culturels et qui viennent ici les acheter. Et nous, dans notre tête, ça fait des objets commerciaux.
À les entendre, cette restitution n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Pourtant, le principe de restitution est une évidence, depuis les conférences internationales de La Haye, de 1899 et de 1907. Elles énoncent les premières règles internationales interdisant les butins de guerre. Dans les années 90, s'ajoutent des conventions pour lutter contre le vol ou l'exportation illicite de biens culturels. Mais tous ces textes ratifiés par la France n'ont pas d'effet rétroactif. Et dans le pays, cette restitution n'est pas forcément évidente. Un certain nombre d'artistes et d'intellectuels émettent des doutes. Ils ne comprennent pas cet acte politique, alors que le patrimoine existant n'est pas entretenu quand il n'est pas volé et revendu.
On parle de restitution, c'est rigolo ça. Pardon, Emile.
Marius Dansou. Plasticien.
C'est rigolo quand j'ai entendu ce sujet de restitution, parce qu'on nous parle de musée à Abomey. Quand je vais là-bas, avec les poussières sur les c'est pas possible. On me parle de restitution, ça veut dire que dans 20 ans, on n'aura plus d'histoire.
Il y a l'idée tout de même de construire un musée.
C'est important ça, mais déjà, il y a un travail de sensibilisation. Qui est-ce qui va s'en occuper? Il faut se donner un temps de 10 ans, on dit on préparait les gens. Par exemple, quand tu vas à Abomey parler aux guides, tu prends 4 guides, ils n'ont pas le même discours. Donc il y a un problème. Et on parle de restitution, où est-ce qu'on va mettre ça? Il faut de l'espace, il faut de l'entretien, il faut des gens qui s'en occupent, connaissent la valeur de ce qui est arrivé. Et connaissent leur propre valeur, c'est important.
Le procès qu'on nous fait, c'est que vous n'avez pas un cadre qui correspond aux normes, etc. pour loger ces objets.
Ousmane Aledji, chargé de mission auprès de la présidence de la République du Bénin.
On va mettre le cadre en place, ça va être une infrastructure moderne, très bien équipée, avec les compétences qu'il faut pour entretenir, sécuriser et mettre en valeur les objets.
Ça supposera aussi un grand travail et un partenariat scientifique, muséographique.
L'expertise française en termes muséals s'exporte déjà à Abu Dhabi, à Salvador de Bahia, à Shanghai, à Bruxelles. Mais c'est une vision muséale typiquement occidentale. Peut-elle s'exporter de la même façon au Bénin, ancienne colonie française ?
Allez, on y va. Soyez les bienvenus.
Merci.
Vous êtes ici à Djimé, dans le palais privé du Wa Perazi. Quand les œuvres reviendront, on va essayer quand même de les purifier pour que les œuvres qui sont au côté culturel soient remises dans leur valeur originale pour servir le roi de Dahomey, pour que nous qui sommes les descendants qui chavirent aujourd'hui puissent recouvrer la paix et la quiétude. Merci.
On va avancer avant que de parler.
Oui, on va aller voir le roi.
Et lequel?
Le dernier descendant.
L'actuel?
L'actuel.
C'est un Béanzin.
Oui, c'est ça.
34. Je t'en prie.
Ousmane Aléji.
Ce que beaucoup ignorent, et même certains Béninois, et je le dis très fort, c'est que nous n'avons pas de musée conçu et réalisé comme tel. Ce sont d'anciens palais royaux qui ont été transformés en musées. Et dans l'esprit collectif, ça garde toujours son statut de palais. Donc c'est des lieux où on y va quand on y est autorisé. Le palais royal d'Abomey appartenait au roi d'Abomey, à la cour royale d'Abomey.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est devenu le musée qui est consacré pour les objets, etc. Et le roi y a toujours une petite cour, mais ce n'est plus consacré comme d'abord le palais où le roi et sa cour, etc., etc. Même s'ils y ont une cour pour opérer, pour gouverner maintenant, on va dire, tradition, culte, et, etc.
Le trône du roi Béanzin est à Paris. Le vrai trône du roi Béanzin a été pris comme valeur de guerre par d'ordre de ses équipes. Et c'est ça qui sont maintenant au Quai Branly à Paris. Il y a trop d'œuvres qui viennent du temps romain. Ce n'est pas seulement du roi Béanzin. Le trône, les trônes du roi Guizot, Glélin sont au Quai Branly.
Je suis devant la statue royale. Oiseau du roi Guizou, attribué à Don Vidé Sosa Dédé, atelier Akati, deuxième moitié du 19e siècle, don du général Dodds.
Il y a de grandes agences européennes
Arkad Assogba,
qui ont été recrutées pour penser
réalisateur de cinéma.
Certaines formes de scénographie du musée de Ouidah, par exemple. Et quand ces gens ils ont débarqué et qu'on leur a adjoint quelques experts locaux, des universitaires, et des gens qui ont quand même fait un travail sur de longues années, il y a des travaux impressionnants qui ont été réalisés, mais tout ça a dû être rangé. Parce qu'il faut intégrer des données qui sont essentielles, parce que vous ramenez un patrimoine, il y a un discours qui accompagne ça, il y a un message qui accompagne ça, même en termes d'éducation, etc., qui accompagne ça. Et donc, c'est très compliqué.
Cette histoire de guerre avec les Français, le roi Béanzin et le roi Toffa continue de s'écrire. Ici, une répétition à l'École internationale de théâtre du Bénin.
Condo en cage.
L'histoire devrait toujours être écrite à quatre mains, par les vainqueurs et les vaincus, par les esclavagistes et par les esclaves.
Non, Condo.
Les symboles nécessaires à l'unité d'un peuple ne doivent pas rappeler les heures sombres de la domination des uns par les autres, sous peine de voir déboulonner les statues et débaptiser les rues. Il y a un vrai travail à mener entre l'Occident et l'Afrique, mais pas que. Ce retour des œuvres remue aussi l'histoire interne du pays. Dans le musée d'Abomey, ancien palais royal, est exposé l'un des trônes du roi Guizot. Il repose sur 4 crânes des chefs du pays Machi. Il est magnifique. Malgré la poussière qui le recouvre, les visiteurs étrangers le regardent comme un objet d'art. Roger Benonvi, enseignant, ancien ministre, fondateur de la section béninoise d'Amnesty International, s'insurge.
Mais moi je dis, au nom des droits humains et au nom de l'unité de ce peuple que vous avez fabriqué et qui n'en a pas d'unité, mais il faudrait que les Abomeyens commencent à rendre les 4 crânes. À qui de droit? Parce qu'ils savent à qui ça appartient, ces 4 crânes-là sur lesquels le roi est toujours assis. 4 crânes. Et que les gens du Mono Koufo veuillent rendre le sable, ce qui reste du sable de Gaou et Kossou, qu'ils ont enterré vivant pour se fâcher contre Abomey.
Je suis toujours au musée du Kibranli, dans la section Bénin. Je m'approche d'une vidéo. Je reconnais Romuald Assumé, plasticien béninois, connu pour ses masques en plastique.
Parce que je viens quand même de quelque part, et la manière dont on traite les masques, je les traite toujours comme ça. Par exemple, vous arrivez dans mon atelier, il y a des masques que vous ne pouvez pas sortir dehors, parce qu'ils ne sont pas sortis. Mon atelier est comme un couvent. Bien sûr que c'est du plastoc, bien sûr que c'est des poubelles, mais on ne peut pas sortir ces masques-là tant que moi, je n'ai pas fait la cérémonie de sortie de ces masques.
Nourini Tidjani Serpos, ancien directeur général Afrique de l'UNESCO, aujourd'hui président du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin pour le retour des œuvres.
Vous avez des objets, par exemple tout ce qui est parti du temps du général Dodds. Il est clair que ces œuvres en partant étaient des œuvres qui avaient une dimension religieuse, une dimension culturelle. Mais arrivé là-bas, cette dimension culturelle n'a pas été maintenue. C'était devenu des objets de curiosité. Et des années 1892 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 100 ans que ces œuvres sont parties. Quand ils vont revenir, on va leur redonner leur titre, leur force ésotérique. Quand les gens vont voir leur Dieu revenir, ils vont s'agenouiller, ils vont se prosterner, il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'on les réintègre dans leur rôle.
Ce qui veut dire, si on réintègre ces objets dans leur rôle, on ne va pas les enfermer dans des musées. C'est un peu antinomique, non?
Non, non, pas du tout. Non, non. Quand vous allez à Abomey maintenant, il y a des périodes où il y a la fête du Vaudou, où les dieux sortent, où pendant toute cette période-là, ce n'est pas la période où c'est fait pour les touristes en tant que tel. La partie culturelle va prendre le dessus.
Comment concilier impératif culturel et impératif muséographique? J'ai eu un début de réponse en visitant dans le pays d'à côté, le Togo, l'exposition « Le Togo des rois » proposée par le Palais Lomé, un centre d'art qui vient d'ouvrir ses portes.
Le Togo des rois consacré au patrimoine togolais.
Et là, le guide nous explique que des objets sont sortis quelques jours à la demande d'un chef traditionnel pour une cérémonie, un rituel. Mais ils vont rentrer au musée. Une manière de concilier les impératifs culturels et muséographiques. Une manière aussi de modifier les usages qui entraînaient la disparition des objets chargés de force. Nourini Tidjani Serpos se souvient.
Vous savez, chez nous, autrefois, les aînés, les vieux, les sages, quand ils mouraient, très souvent, parce qu'ils ne donnaient pas leurs incantations à tous les dieux qu'ils avaient dans leur chambre à coucher, etc. Et les gens avaient peur de manipuler ces masques, et ces statues et autres. Donc très souvent, on ramassait le tout et on allait jeter dans la brousse. Et moi, je me souviens très bien, mon père, en tant que fonctionnaires de l'IFAN. Il allait les ramasser, on les nettoyait et on les mettait à l'IFAN, au musée.
Petite parenthèse sur ce que sont devenus ces objets des musées de l'IFAN.
Avant l'indépendance, l'IFAN, c'était Institut français d'Afrique noire. À la veille de l'indépendance, Senghor a transformé l'IFAN en Institut fondamental d'Afrique noire. Les 8 colonies envoyaient régulièrement des biens vers la capitale fédérale qui était Dakar. Pas un seul de ces biens n'est retourné vers les colonies. Nous allons revenir à Dakar pour discuter de ce qui arrive à nos biens.
Avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'esprit.
Ces masques et statuettes concentraient bien des convoitises. Pour les catholiques, il était important d'éloigner ces fétiches et vaudous de la population. Certains étaient brûlés, d'autres envoyés en France pour les musées missionnaires. Pour d'autres, l'attrait des Occidentaux pour ces objets cultuels encourageait un marché peu scrupuleux. Au bout de la chaîne, bien souvent, des collectionneurs.
Merci à vous, bon dimanche.
Aujourd'hui, Robert Valois et le collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés ont créé un centre d'art regroupant salles d'exposition, résidences d'artistes et un musée patrimonial. Dans ce musée, des objets royaux qu'ils ont donnés. Mais rien à voir avec les restitutions officielles d'État à État.
Soyez les bienvenus. Très content de vous accueillir dans ce petit musée de l'Arécade. Il a été créé en 2015 grâce à la générosité de la Galerie Valois et le collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés. Ces deux dernières années, et surtout le 17 janvier, nous avons reçu 28 objets royaux, parmi lesquels se trouvaient des récades et des sculptures. Nous sommes obligés de faire une étude d'accrochage didactique à cause du public qui fréquente le musée.
Qui est le public?
Les jeunes, les là, les voilà. Voilà les élèves. Les élèves qu'on reçoit régulièrement. Et ils ont profité de leur retour à la maison. Ils font escale là, ils écoutent une histoire et ils continuent.
Le roi Clélé succède à son père Guézo. Il règne de 1858 à 1889. Le roi Clélé se compare au lionceau qui sème la terreur dès que ses dents ont poussé.
Nous avons toutes les écoles du quartier Le Bozoupa, le centre de vie dans le quartier Le Bozoupa. Nous avons dans notre équipe des gens qui vont rentrer dans les maisons, moi-même aussi, pour des gens qui descendent dans les lycées, collèges et machins jusqu'à l'université, en donnant des flyers pour se informer du programme, de tout ce qui se passe ici. Et quand il y a événement, ils arrivent. Les enfants s'intéressent à leur culture maintenant, mais pas encore à 100%.
Le problème, c'est un problème d'enseignement. Il faut qu'on ait enseigné aux enfants. Nous, c'est raté.
Moi, je fréquente les musées par déformation professionnelle. C'est ma profession qui m'y a conduit. Si j'étais un cadre de bureau, je ne serais jamais allé. Ils n'y vont pas. Ils font des calculs sur leur salaire. Voilà comment entretenir une deuxième maîtresse et tout. Comment s'acheter une voiture. Comment. C'est pas leur souci. Mais le problème, c'est les enfants. Si on apprend à ceux-là ce que c'est que les musées, que c'est là notre histoire, que ceux qui nous ont précédés sur cette terre, ceux qui ont vécu ici avant nous, quand vous parlez de Béhanzin, voici ce qu'il a fait, voici son siège, voici son paille, voici les chaussures qu'il avait portées. Ces enfants le diront à leurs parents à la maison. Papa, j'ai envie de retourner au musée qu'on nous a montré à l'école. Papa, c'est les vacances, est-ce qu'on fait... Si je travaille bien, tu vas m'amener au musée. Voilà.
Isidore Dokpa, metteur en scène et acteur béninois.
l'État devait inscrire dans le programme d'éducation que la visite au musée, une fois l'an, est obligatoire.
On vous suit.
En sortant du petit musée de l'Arricade, on découvre des sculptures d'art contemporain dans le jardin. Si l'on poursuit la visite du centre, des salles d'exposition mettent en valeur les œuvres réalisées par des artistes en résidence. Cette volonté de ne pas séparer art traditionnel et art contemporain se retrouve aussi au Palais de Lomé. Une manière d'inscrire dans les murs une histoire de l'art africain. Elle manque bien souvent aux visiteurs pour décrypter les œuvres contemporaines.
Alors, je veux vous inviter.
Ousmane Aledji.
Ces musées vont être, j'allais dire, des lieux intelligents et vivants. C'est-à-dire que ce que j'appelle des lieux intelligents et vivants, c'est que ça va être à la fois des lieux de présentation, donc de promotion de ces objets-là, mais ça va être aussi des lieux de recherche pour les scientifiques, pour les journalistes, les réalisateurs, et ça va être aussi des lieux pour les enfants qui veulent aller s'enrichir, réécrire leur histoire, comme des touristes qui passent et qui veulent aller en contact avec l'autre, avec l'histoire de l'autre.
Il n'y aura que du patrimoine dans ce musée ou il y aura aussi des œuvres contemporaines?
Merci beaucoup pour cette question. C'est pour ça que je dis que ce serait des lieux intelligents et vivants. Si tout se passe normalement et si nous avions toujours notre mot à dire, on créerait dans ce musée des espaces créatifs, des espaces vivants. Je pense par exemple au théâtre, à des expositions d'artistes contemporains. Il ne faut pas sanctuariser ces musées-là comme des lieux où, voilà, ce n'est pas des temples en quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est identifier ces objets, faire une évaluation, le nombre total, réel, comment faire pour les transporter, comment les poser ici, qui sont les jeunes diplômés en conservation qui pourraient s'occuper de ces objets-là, etc. C'est tout cela participe d'une politique de développement et d'épanouissement, je crois, de nos peuples. Donc c'est pour vous dire, derrière un geste de réclamation, il y a derrière toute une démarche de nécessité de développement.
Le chef de l'État a dit, nous allons mettre le paquet sur... le retour des biens, nous allons reconstruire tel ou tel espace. Mais c'est pour booster le tourisme. Il faut que ce soit un des moyens pour permettre au Bénin de récupérer des fonds pour développer d'autres secteurs.
1958-1962. Indépendance des pays africains colonisés par la France, dont le Dahomey. Le Dahomey deviendra République du Bénin en 1975.
Nourini Tidjani Serpous, président de la commission pour le retour des œuvres.
La circulation, on est d'accord, mais dans un premier temps, il y a d'abord la restitution. Et dans un deuxième temps, il y a la circulation exposition. Il faut également qu'il y ait des échanges. Nous avons dit au ministre français de la Culture, quand il est passé ici dernièrement, qu'on aimerait que les œuvres des peintres cubistes, Picasso, les Matisse, etc., on aimerait que ça vienne ici et que nos jeunes, nos populations, puissent voir comment, en regardant les œuvres africaines, ils ont pu intégrer des éléments qui ont fait exploser l'esthétique occidentale.
C'était du Quai Branly au Bénin, la restitution du patrimoine africain. Un documentaire de Sophie Pillot, mixé par Agnès Maton. Production, partage de voix. Octobre 2020.